Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, un Français sur trois, 23 millions de Français devant la télévision hier soir pour écouter Emmanuel Macron. Et combien de convaincus par les annonces, les mots, le ton? La plupart des gilets jaunes sur les ronds-points appellent à continuer les manifestations. Ils ont l'appui de la France Insoumise et du Rassemblement National. À droite, discours nettement plus modéré. Selon un tout premier sondage, une courte majorité de Français, 54%, souhaitent que les actions des gilets jaunes continuent. Nous détaillerons à nouveau les annonces d'hier pour les retraités et travailleurs pauvres en particulier. Réaction de Jean-Jacques, il est retraité et Marie, elle travaille mais doit vivre chez son père.
Ce qui compte, c'est le geste, la volonté de vouloir faire et de faire arranger les choses. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est un geste.
Ça me paiera, le plaît, c'est tout. Je crois que tout le monde en a marre. Et puis, il a mis trop longtemps avant de réagir. Là, maintenant, on en demande plus parce que, voilà, il s'est foutu de nous.
Et il, c'est Emmanuel Macron. Alors, simple aumône, colmatage, vrai tournant social, ce discours hier. Nous poserons la question à Thierry Pêche, directeur général du Cercle de réflexion Terra Nova. La contestation dans les lycées continue. Dans certains établissements, les enseignants sont de la partie. Et puis, nous verrons qu'en Égypte, la vente de gilets jaunes est quasiment interdite. Le Brexit, Theresa May peut-elle obtenir des concessions supplémentaires des Européens? D'Angela Merkel à Jean-Claude Juncker, elle multiplie les rencontres aujourd'hui. À Londres, la presse est saignante et même méprisante après le report du vote du Parlement qui devait avoir lieu aujourd'hui. La chronique santé, bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
C'est grave docteur?
Eh bien des médecins, infirmières, aides-soignantes en surcharge de travail, qui dorment mal, mangent mal, ça pourrait être grave, oui, pour notre système de soins.
On détaille cela avec vous tout à l'heure, la météo. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Que nous dit Météo France?
La grisaille se morcelle plus ou moins difficilement, ça va rester encombré du nord-est au Lyonnais. Des éclaircies tout de même entre le nord-ouest, le nord de la Seine, la région parisienne et le centre. Du soleil en allant vers le sud. Et puis un petit peu de fraîcheur, 5 à 12 degrés jusqu'à 16 tout de même pour le sud-est.
En football, le retour de Neymar attendu ce soir pour Étoile Rouge. PSG, Paris joue sa qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est à 21h, le 13h. Vous avez le programme, c'est parti. Et avant de détailler les mesures annoncées hier et leur impact, une des informations de la matinée. Bonjour Willy Moreau.
Bonjour.
L'Arc de Triomphe va rouvrir, le monument symbole à nouveau ouvert au public demain.
Oui, demain, 10h précises, les visiteurs vont découvrir un Arc de Triomphe quasiment intact. Plus de tacs sur les murs, plus de peintures sur le buste en marbre de Louis-Philippe. Les toilettes, la boutique sont réparées plus ou moins avant une remise à neuf totale. Mais ceux qui ont l'œil, ceux qui connaissent déjà le bâtiment verront encore quelques traces du passage des gilets jaune début décembre, la grande maquette à l'entrée, le moulage de la Marseillaise dont on a vu les images partout dans les médias avec ce visage complètement détruit ne sont pas visibles. Ces œuvres sont encore en rénovation. Une dizaine d'entreprises sont sur le coup depuis 10 jours, des maçons, des menuisiers, des peintres. Et on comprend que ça pourrait encore prendre du temps puisqu'au total, le Centre des Monuments Nationaux a compté plus d'1 million d'euros de dégâts.
Merci Willy Moreau. Il y avait 23 millions de personnes devant TF1, France 2, M6 et les chaînes Info hier pour écouter le discours d'Emmanuel Macron. Beaucoup, beaucoup de monde pour entendre ces quatre annonces en particulier. Augmentation des salaires de 1 200 euros au niveau du SMIC. Annulation de la hausse de CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros. Les entreprises incitées à verser une prime de fin d'année sur laquelle il n'y aura ni impôt ni cotisation sociale. Et puis le retour rapide des heures sup, là aussi, sans impôt ni charges sociales supplémentaires. Fabien Cazot, détaillons tout cela avec vous. Combien de personnes concernées? Ceux qui sont visés avant tout sont les travailleurs pauvres. Alors d'abord Fabien, le mécanisme concernant le SMIC, comment on en arrive à cette hausse nette de 100 euros? Est-ce que cela ne concerne que les gens strictement au SMIC?
Alors c'est une fusée à deux étages. Premier étage, la hausse du SMIC en lui-même qui était de toute façon prévue pour le 1er janvier, plus 1,8%, ça correspond à 20 euros net par mois. Le deuxième étage, c'est la prime d'activité, un complément de rémunération versé au plus bas salaire entre 1 et 1,4 SMIC. Pour les salariés au SMIC, cette prime d'activité devait progresser c'est de 80 euros jusqu'en 2022. Ce qu'Emmanuel Macron a annoncé hier, c'est que les 80 euros seront débloqués dès l'an prochain. 20 euros de SMIC plus 80 euros de prime d'activité, ça fait bien 100 euros net de plus à la fin du mois. Les salariés au SMIC ou légèrement au-dessus bénéficieront par ailleurs des allègements de charges prévus sur les bas salaires l'année prochaine, ce qui leur rajoutera une vingtaine d'euros supplémentaires.
À propos de l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités, un détail qui n'en est pas un, c'est par personne ou par foyer?
Par personne, Bruno. Cela va concerner les retraités qui touchent jusqu'à 2000 euros de pension, alors que le plafond était jusqu'à présent beaucoup plus bas, à 1200 euros par mois. Techniquement, ceux qui ont subi une hausse de la CSG cette année retourneront l'an prochain au taux antérieur, celui auquel ils étaient assujettis avant la hausse. Selon la ministre du Travail, qui était notre invitée ce matin, cela concerne 3,5 millions de retraités.
Pour les annonces d'hier et les précédentes, on a une idée du coût et du financement, Fabien.
Alors, l'estimation du gouvernement confirmée ce matin à Bercy, c'est de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros, tout compris, en incluant les concessions déjà faites ces dernières semaines sur la fiscalité écologique. De quoi faire passer le déficit français, sans doute au-delà du seuil de tolérance européenne de 3% l'an prochain. Le casse-tête du financement ne fait que commencer. Emmanuel Macron a évoqué hier soir, en parallèle des annonces des baisses de dépenses publiques à venir. Mais le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, n'écarte pas ce matin l'idée d'un desserrement temporaire de la contrainte budgétaire.
Et précision, Bruxelles dit suivra avec attention l'impact sur le déficit français. C'est ce que dit le commissaire européen Pierre Moscovici. Une dernière question, Fabien Cazot. Calendrier, on en a une idée pour l'application de ces mesures?
Alors, toutes les mesures annoncées entreront en vigueur en début d'année prochaine, au plus tard en avril pour les 100 euros supplémentaires sur le SMIC. Le calendrier reste à préciser pour les autres mesures, mais la plus immédiate devrait être la défiscalisation des primes de fin d'année qui seront versées dans les entreprises volontaires dès ce mois de décembre.
Édouard Philippe doit donner des détails, le Premier ministre, à l'Assemblée nationale à partir de 15h également. Bonjour Thierry Pech.
Bonjour.
Directeur général de la Fondation Terra Nova. C'est un effort substantiel qui a été fait hier?
C'est un véritable effort, c'est sûr. D'ailleurs, il suffit de voir les inquiétudes budgétaires pour le financer. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'aurait été un effort suffisant? C'est ça la question qu'on peut se poser.
Et vous dites non ou oui? Est-ce suffisant?
C'est sans doute suffisant s'il s'agit de baisser le niveau de soutien de l'opinion au mouvement des Gilets jaunes. C'est sans doute insuffisant s'il s'agit de répondre à toutes les demandes qui ont pu surgir de ce mouvement. Mais ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron hier, c'est clairement de répondre sans se désunir. Il est resté finalement dans son couloir de nage, conforme au principe qui avait inspiré une grande partie de son programme, le travail doit payer. Oui. Il a répété ça sans cesse et toutes les mesures qui ont été prises, y compris la baisse de la CSG pour les retraités, et dans cet esprit-là, puisqu'il a dit, voilà, ils ont contribué, ils ont travaillé.
Dans la philosophie de la politique économique, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de tournant.
Non, je crois qu'il a vraiment, il s'est efforcé de maintenir sa cohérence. Le seul changement notable, c'est une certaine distance à la rigueur budgétaire qui avait inspiré ses choix. Et d'une certaine façon, on peut lire cette réponse d'hier comme une correction de la faute du début de mandat. Ouais. La faute du début de mandat, c'est ne pas tenir compte de l'équité, de la demande d'équité, en faisant tout de suite la suppression de l'ISF, tout de suite la hausse de la CSG, tout de suite la flat tax, et puis pour le reste, c'est-à-dire pour le pouvoir d'achat, les baisses de cotisations et la taxe d'habitation, on verra plus tard. Et bien là, il fait exactement l'inverse. Il hâte des mesures qui étaient prévues plus tard, en disant, bon, je réponds. Donc ça corrige, si vous voulez, cette faute de début de mandat. C'était une faute, je pense, une faute politique et une faute de justice sociale. Est-ce que ça suffit? Moi, je crois que dans le programme, il manquait une composante d'équité supplémentaire pour être le pendant de la suppression de l'ISF. Donc, je pense qu'on peut en demander un peu plus. Sur le terrain de l'équité, les gens auraient une légitimité à ne pas se sentir satisfaits. Et puis, il y a quand même deux autres choses qui passent un peu à la trappe. L'écologie, qui disparaît de l'écran radar, quand même. Ça, c'est grave, parce que c'est une priorité pour tout le monde, pour nos enfants, nos petits-enfants et pour nous-mêmes, puisque c'est maintenant. Et puis, la question du malaise démocratique, qui est pas franchement résolu, puisqu'il annonce une espèce de d'état généraux de tout. Bon, on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre, ni ce qui va pouvoir s'y passer.
Fabien Cazot, question.
Il n'y a rien d'annoncé pour les demandeurs d'emploi, rien non plus sur la revalorisation des pensions demandées par les retraités. Est-ce que c'est, selon vous, une erreur?
On ne peut pas tout faire en même temps non plus. Je crois que, bon, maintenant, la démocratie doit rentrer dans son lit. Moi, le conseil, ou en tout cas l'idée que je voudrais soumettre aux Gilets jaunes, c'est de se transformer maintenant en force de proposition et de délibération. Une scène démocratique va s'ouvrir, puisqu'il a été annoncé qu'on aurait à débattre d'à peu près tous ces sujets dans les mois qui viennent. Eh bien, prenons-la au mot et discutons. Les violences, les mobilisations fatiguent quand même beaucoup de gens, et c'est compréhensible. Il y a quelque chose de très positif dans ce mouvement, c'est qu'il y a une France qu'on n'entendait pas, qui se fait entendre. Et ça, c'est très bien, c'est très bon pour la démocratie. Eh bien, j'ai envie de dire maintenant, il faut que tout le monde trouve l'intelligence de sa colère. Et qu'on passe à la phase d'après, que ce mouvement se structure, qu'il ne se laisse pas absorber par des partis qui, évidemment, lorgnent sur lui comme sur un magot. et qu'il entre dans la discussion. Et s'il n'est pas satisfait des réponses, eh bien, il y aura des échéances pour le manifester. Je pense que c'est ça qui serait productif à la fois pour eux, pour le pays. Tout le monde n'est pas satisfait, évidemment, ce matin. C'est normal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut... Comment dire, il faut jouer le jeu démocratique à présent.
Et on notera que parmi ceux qui souhaitent la poursuite des blocages, hein, je citais ce sondage Odoxa, 54% des Français souhaitent la poursuite des actions des Gilets jaunes. Parmi ceux qui souhaitent la poursuite des blocages et des manifestations, une très forte majorité de sympathisants de la France Insoumise et du Rassemblement National. Au sein des autres partis, on souhaite que les actions cessent désormais. Alors, quels commentaires de ceux qui sont concernés au premier chef par les mesures hier? D'abord les retraités. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Bruno.
Thibault, vous êtes à Sainte-Foy-la-Grande, entre Dordogne et Gironde. À votre micro, parole de retraités globalement satisfaits.
Oui, des retraités globalement satisfaits du geste d'Emmanuel Macron et qui ont déjà fait leurs petits calculs, comme Huguette, elle a 91 ans, elle touche 980 euros de pension par mois. Elle se promène en déambulateur aidée par sa fille Liliane. Et avec l'annulation de l'augmentation de la CSG, eh bien, elle devrait récupérer une dizaine d'euros par mois.
10 euros par mois, ça fait gros. Ça fait 120 dans l'année.
Pour vous, c'est important ces 10 euros?
Ah ben bien sûr, hein. Plus on en a, mieux c'est. Elle est locataire, il faut qu'elle paye son loyer, tout et tout. Hein.
Une mesure donc conséquente pour les petites retraites, mais évidemment plus anecdotique pour les pensions moyennes. Disons, ces retraites juste en dessous du plafond des 2000 euros par mois déterminé par Emmanuel Macron. C'est le cas de Jean-Jacques, retraité indépendant, 1800 euros de pension.
C'est un geste, ça change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le geste, la volonté de vouloir faire et de faire arranger les choses. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et derrière, il y aura autre chose. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde s'y retrouve.
Et puis, il y a les plus grosses retraites, comme celle de François Marie, 66 ans, un ancien notaire. Il touche 3200 euros par mois. Il n'est évidemment pas concerné par la réforme. Et pourtant, la qualité de vie des autres retraités l'inquiète.
Jusqu'à 2000 euros, je veux bien. Mais quand vous savez qu'un EHPAD coûte plus de 2000 euros... C'est pas suffisant. Vous connaissez le montant des EHPAD? Allez dans un EHPAD, demandez le montant de l'EHPAD, même un EHPAD public. Et ceux qui sont en limite, ce n'est pas suffisant.
Bien, donc, mais peut mieux faire. Ce qui est étonnant, Bruno, c'est qu'en recueillant ce matin la parole de tous ces retraités au niveau de vie bien différent, eh bien, on remarque qu'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils expriment de la bienveillance vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes.
Merci Thibault Lefèvre avec Jérémy Thuile. Une autre réaction à votre micro et celui de Jérémy, celle de Marie. Elle a 52 ans, elle travaille dans une école maternelle pour 1200 euros par mois. Elle a dû retourner vivre chez son père. Vous l'avez interrogé, Thibault, rond-point de Pinoy, là encore, c'est entre Dordogne et Gironde, dans le même coin.
Ça me paiera le plein, c'est tout. Je serais sûre de pouvoir aller au travail.
Vous demandez quoi, vous?
Si on pouvait avoir 1500, ce serait bien. Je crois que tout le monde en a marre. Et puis, il a mis trop longtemps avant de réagir. Il aurait dit, oui, je vous entends. Je crois que ce ne serait pas monté en puissance. Là, maintenant, ben, on en demande plus parce que, ben voilà, il s'est foutu de nous. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils ne vivent pas avec nous. Quand vous entendez des députés qui disent « Oh, 5000 euros, on n'a pas assez pour vivre !» Mais nous, on ne les a pas, les 5000 euros par mois. On est obligé de s'endetter pour pouvoir vivre ou survivre. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense qu'ils vivent sur un autre monde. J'ai peur pour ce qui pourrait se passer. Je suis gilet jaune, mais je ne suis pas pour la violence. Et j'ai peur que ça dégénère.
Alors Philippe Rendez, vous nous avez rejoint en studio. Jacqueline Gourault, mis à part les gilets jaunes les plus médiatiques, appelle à continuer les manifestations. À la question « Et maintenant ?», qu'est-ce qu'on peut répondre, Philippe? On est moins de 24 heures après l'intervention d'Emmanuel Macron.
Alors une anecdote pour débuter, si vous voulez bien. Samedi dernier, 19h40, 17e arrondissement de Paris, au milieu des carcasses de voitures fumantes, un gilet jaune agite la main droite devant des gendarmes mobiles avant de s'écrier, je cite « À samedi prochain, les gars !» Vous l'aurez compris, certains gilets jaunes avaient déjà prévu, avant les annonces présidentielles, de revenir à Paris samedi prochain. Sur les ronds-points, sur Facebook, certains d'ailleurs appellent à un acte 5. C'est le cas sur le groupe La France en colère, un des plus influents, où de nombreux internautes ne sont pas satisfaits de l'allocution présidentielle. Mais difficile alors qu'il est de connaître leur nombre, leur poids. Un communiqué de La France en colère et d'Éric Drouet appelle à un rassemblement non violent à partir de 8h samedi prochain à Paris dans un lieu à déterminer. Mais à l'inverse, les gilets jaunes libres, les plus modérés, demandent eux à ce que les barrages soient désormais levés. Cédric Guémy, par exemple, que j'ai eu au téléphone il y a quelques minutes, le dit « Nous sommes d'accord, il ne faut pas d'acte 5, notre mouvement doit se transformer, il faut se mettre autour d'une table et dialoguer. » Ce matin, à 9h de sources policières, 170 actions, dont 45 blocages étaient recensés en France. Ça représente 1932 gilets jaunes contre 3151 mardi dernier, des chiffres qui ne sont qu'une photographie ponctuelle de la mobilisation ce mardi à 9h du matin.
Je disais Jacqueline Gourault, c'est Jacqueline Mourault évidemment tout à l'heure. Merci Philippe Randé. Thierry Pêche, la demande, elle n'est pas qu'économique, elle n'est pas que 100 euros, 200 euros, 300 euros de plus, elle est d'un autre ordre.
Oui, c'est une demande de reconnaissance sociale et c'est une demande de délibération collective. De reconnaissance sociale, on l'a vu, c'était palpable sur les ronds-points, les gens ont retrouvé une forme de fierté. Ils ont dit, on existe, on nous écoute, on nous regarde. Enfin, très bien, ils se font entendre. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Et c'est aussi une demande de délibération collective. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, Jupiter est vivant, mais le jupitérisme est mort. On ne peut plus gouverner comme on a gouverné depuis 18 mois, de façon verticale, entre quelques personnes qui prennent les décisions les plus importantes. Et c'est très bien aussi. Je pense qu'il faut revenir à une forme de délibération collective beaucoup plus ouverte. Il ne faut pas sans cesse, si vous voulez, penser que parce qu'on a la raison technocratique avec soi, on a la raison démocratique. C'est pas du tout du même ordre.
Dernière question, Thierry Pêche. L'opposition, quel regard portez-vous? Est-ce qu'elle est à la hauteur?
Il y a plusieurs oppositions.
Bien sûr.
C'est la particularité, l'étrangeté de ce régime. Ouais. On avait l'habitude de vivre dans un régime où l'opposition se déclinait au singulier. Désormais, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a une opposition plutôt responsable, qui a été dure avec le pouvoir en place, mais qui aujourd'hui comprend que la démocratie doit maintenant retrouver ses formes, je dirais, plus légales, plus ordinaires. Et puis, il y a une opposition des extrêmes, du Rassemblement National et de la France Insoumise, qui fait un autre pari, qui fait un pari insurrectionnel. C'est ça la réalité. C'est un pari insurrectionnel. Donc, ce sont des gens, je le dis à titre personnel sans représenter quiconque autre que moi, ce sont des gens qui veulent aventurer la République en terre inconnue. Et je pense qu'il faut y résister.
Merci Thierry Pêche d'être venu dans les studios de France Inter répondre à nos questions. Alors justement, nous en venons à l'aspect politique après cette intervention d'Emmanuel Macron. Il y a une chose qui est notable. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Service politique de France Inter, vous nous avez rejoint. Une chose notable, la droite joue plutôt l'appel au calme depuis hier. Hein.
Oui, un appel même à lever le camp lancé ce matin par l'ancien ministre, actuel député Les Républicains, Éric Woerth, qui demande aux Gilets jaunes de quitter les ronds-points, de tenir compte de ce qui a été dit par Emmanuel Macron. Un appel au calme que les LR relaient en fait plus ou moins clairement depuis quelques jours. N'oublions pas que nous sommes le parti de l'ordre, me dit Guillaume Larrivé, secrétaire général délégué des Républicains. Car oui, le piège ici serait de braquer l'électorat classique de droite qui, selon un sondage récent, commence à diverger du reste des Français sur l'adhésion au mouvement. 38% seulement des électeurs de François Fillon au premier tour de la présidentielle penseraient qu'il faut encore se mobiliser. Et au-delà de cette question de l'ordre, compliqué aussi pour cette droite d'attaquer frontalement les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron, notamment la très sarkozyste défiscalisation des heures sup. Le chef du parti, Laurent Wauquiez, est d'ailleurs resté jusque-là étrangement silencieux. Il s'exprimera ce soir à 19h sur BFM avec comme seul angle d'attaque désormais la dépense publique qu'il faut baisser selon lui pour financer les mesures. Sinon, les annonces d'aujourd'hui, prévient-il, seront les impôts de demain.
Un silencieux également Nicolas Sarkozy, mais l'ancien président de la République a été reçu discrètement à l'Élysée vendredi dernier à la veille de l'acte 4 de la manifestation. L'agence France-Presse confirme ce matin une information donnée par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, signalant que tous les parlementaires de la majorité seront reçus ce soir par Emmanuel Macron à l'Élysée. L'aspect lycée à présent de la contestation, encore quelques dizaines de lycées, 170 selon le décompte du ministère, ce sera peut-être plus en fin de journée, 170 états établissement mobilisé. Nous allons à Toulouse avec Stéphanie Glésis, lycée Saint-Cernin. Une des particularités, c'est que les enseignants manifestent aux côtés des élèves.
Ces profs d'ordinaire calme sont en colère car cette réforme du lycée, selon eux, est faite à la hussarde. Antoine Missier, prof de maths à Saint-Cernin.
La destruction complète de l'architecture du lycée professionnel, du baccalauréat, menée avec une brutalité incroyable, au pas de charge. Les programmes ne sont pas prêts, la réforme n'est pas prête, c'est du grand n'importe quoi.
Amandine Piau est prof de PS, elle craint que les zones rurales soient sacrifiées dans le choix des options.
Ça veut dire que chaque matière et chaque spécialité va être dépendante de la taille des établissements, de leur positionnement géographique. On ne pourra pas avoir les mêmes offres partout sur le territoire. Des élèves qui seront assez loin et qui n'auront finalement à leur disposition que certains choix qui seront proposés par les établissements, n'auront pas tout à fait la liberté de choix de toutes leurs spécialités, donc de leur orientation.
Quant à Blandine Delpou, prof de SVT, elle pense que sa matière va pâtir de la réforme.
Il est prévu de n'avoir que deux spécialités en terminale. Il est évident que des élèves scientifiques vont choisir maths et physique. S'ils veulent faire médecine, vont-ils abandonner les sciences de la vie et de la terre en terminale?
Les enseignants, tous établissements confondus, ont déjà commencé à lister le nombre de postes qui risquaient de disparaître et des classes qui seront plus chargées dans une académie où le nombre de lycéens augmente fortement chaque année. Toulouse, Stéphanie Glazis, France Inter.
Et un rendez-vous important sur l'antenne de France Inter, le ministre de l'Intérieur. Toutes les questions qui se posent sur l'action des policiers, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, invité demain matin à 8h20 de France Inter. Pour refermer cette page gilet jaune, cette question, ce fameux gilet jaune, est-ce qu'il est en passe de devenir un symbole international de révolte et même un vêtement de défi quasiment au dictateur? En tout cas, en Égypte, la vente de gilets jaunes est quasiment interdite. France Inter au Caire, François Mferkataji.
On pourrait penser à une blague ou une infox, mais les informations tirées de l'enquête de l'agence de presse AP sont bien réelles. Discrètement, la police égyptienne a contacté tous les vendeurs de gilets jaunes du pays pour leur interdire de vendre ce produit aux acheteurs occasionnels. Les grossistes, eux, doivent obtenir une autorisation avant de passer commande, et ce, jusqu'à la fin du mois de janvier. Les autorités craignent que les ouvriers et opposants reproduisent le mouvement français en sortant dans les rues égyptiennes, notamment à l'occasion de l'anniversaire de la révolte du 25 janvier 2011. En Égypte, les manifestations sont interdites et les grèves sont systématiquement réprimées. Exemple à Alexandrie, sur le chantier de construction des navires de guerre Corvette, vendus au Caire par le français Naval Group. 26 ouvriers sont en attente de leur procès militaire pour avoir réclamé une augmentation de salaire de 40 euros, une couverture médicale et une prime pour le ramadan. Il risque jusqu'à 3 ans de prison. Enfin, hier, un avocat a été arrêté à Alexandrie après avoir pris une photo avec des ouvriers en gilet jaune. Il est poursuivi pour incitation à la manifestation. Le Caire, François Mferkataji, France Inter.
Et après cette longue page gilet jaune, portrait de l'Europe, enfin 2018, il y a donc cette crise sociale majeure en France. En Allemagne, une dirigeante naguère contestée qui est désormais en fin de parcours, Angela Merkel, et puis un peu partout les extrémistes qui progressent au fil des scrutins. L'exemple le plus récent, c'est l'Espagne. Et bien sûr, il y a la Grande-Bretagne et le Brexit de plus en plus chaotique. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour Bruno.
Envoyé spécial de France Inter à Londres. Aujourd'hui, le Parlement aurait dû voter à Londres et rejeter le texte de divorce négocié par Theresa May avec les Européens. La Première Ministre a décidé hier de reporter le vote. Tollé et des mots très durs ce matin encore dans la presse, Isabelle.
Ah oui, pour les uns c'est de la lâcheté, pour les autres une défaite humiliante. C'est vrai que les journaux étrient l'attitude de Theresa May, son faux bond fait aux députés. Ce report du vote, dit le Daily Mail, est une extraordinaire reculade. Et la visite éclair commencée aujourd'hui auprès des dirigeants européens ne suscite pas de commentaires beaucoup plus encourageants. C'est sa tournée de la dernière chance, une tentative désespérée, dit le Guardian, de sauver ce texte que le Parlement britannique refuse en l'état de ratifier. La Première Ministre s'affole, dit encore le quotidien Eye, dans un style plus imagé et plus brutal, celui du Sun, ça donne Brexmas Turkey, une première ministre qui se retrouve, je cite, farcie comme une dinde de Noël.
Alors, elle s'affole et elle voyage également, Theresa May, elle essaye d'arracher de nouvelles concessions aux Européens aujourd'hui, Isabelle.
Oui, mais elle devra vraiment mettre le pied dans la porte parce que on ne va pas lui refuser une tasse de café. Pour le reste, ce sera plus difficile. Ça, c'est la petite phrase du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, où elle a fait étape ce matin avant Berlin et Bruxelles. Marge de manœuvre très étroite. On ne renégociera pas le fond du texte. C'est ce que répètent depuis hier tous ses partenaires. Seules des clarifications, des rediscussions à la marge sont possibles. Sur la question de la frontière irlandaise, Theresa May pourrait ainsi obtenir des assurances explicites sur le fait qu'après le Brexit, son pays ne restera pas indéfiniment prisonnier de ce qu'on appelle, vous savez, le filet de sécurité, oui, c'est-à-dire le territoire douanier unique qui sera mis en place avec l'Union.
Merci Isabelle Labéry, en direct de Londres. On apprend ce matin que le vote se tiendra avant le 21 janvier au Parlement britannique. Voilà pour cette actualité du Brexit, l'actualité du sport et du football à présent. Économiquement, sportivement et en termes d'image, une élimination serait une catastrophe. Le PSG, dernier match de poule en Ligue des Champions ce soir sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade. Belgrade en Serbie. Pour avoir les idées claires, retenons déjà une chose. Paris est sûr de se qualifier s'il gagne. Il y a d'autres cas de figure, on verra cela. D'abord la présentation de l'affiche. Bonjour Sébastien Hazard.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter à Belgrade. Alors Sébastien, il faut d'abord parler du stade dans lequel se déroulera le match. Je devrais dire la cocotte minute dans lequel ils vont jouer.
Le Maracana, le surnom de l'enceinte, c'est l'atout numéro 1 de l'étoile rouge. Visuellement, pourtant, ce stade n'est pas si impressionnant. De l'extérieur, pas de tribune imposante, très haute. L'enceinte ressemble plus à un cratère enfoui. Mais déjà, il y a ce tunnel très long pour accéder à la pelouse. Les joueurs passent sous les tribunes, beaucoup de bruit, de quoi intimider certains adversaires. Ambiance bouillante avec 55 000 fans survoltés. Ce n'est pas juste un mythe. Il y a une incidence sur les résultats. L'étoile rouge n'a pas perdu cette saison en Ligue des Champions ici. Et toute compétition confondue, reste sur plus de 20 matchs consécutifs sans défaite au Maracana.
Bon, on comprend que le PSG aura 55 000 adversaires ce soir, ce qui fait beaucoup. Cela dit, l'équipe est au complet. Sauf grosse surprise, Sébastien, Neymar, blessé ces derniers temps, va jouer.
Neymar s'est entraîné normalement hier ici. Il ne semblait pas gêné dans ses déplacements. Depuis 3 semaines, la star brésilienne a quelques soucis avec ses adducteurs. Et à chaque fois qu'il s'arrête de courir, Paris retient tout simplement son souffle, vu l'importance d'un tel joueur. Le PSG au complet, ça change la donne. Et puis, depuis un mois, il y a une vraie progression visible dans ses matchs en jeu. Un nul à Naples, une victoire contre Liverpool. Ce serait vraiment terrible de craquer sur la dernière marche.
Et c'est donc à 21h, le PSG qualifié s'il gagne. En cas de match nul, il garde de très bonnes chances de passer malgré tout. Et même en cas de défaite, si dans le même temps, Liverpool ne gagne pas à Naples, eh bien Paris passe. J'espère que vous avez suivi. 13h25 sur France Inter. Non, elle n'a pas suivi, mais c'est normal, c'est très très compliqué. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Ils fument, ils boivent, ils n'ont pas de médecin traitant, ils ne se font pas vacciner. Ce sont les gens qui nous soignent. Alors je caricature, mais tout de même, les médecins, les infirmiers, les autres kinés ne prennent pas assez soin d'eux. C'est votre chronique santé de ce mardi, Daniel. Docteur, vous n'avez pas l'air très en forme.
Oui, c'est une question qu'on pourrait poser aussi à l'infirmière, l'aide-soignante, la sage-femme, enfin bon nombre de professions de santé. Ce n'est pas la grande forme, effectivement, selon cette enquête menée par Odoxa, dans le cadre du carnet de santé de la MNH, la mutuelle hospitalière. Près de 6000 professionnels de santé qui se sont exprimés sur, par exemple, la malbouffe. 44% des infirmiers ou 39% des médecins spécialistes n'accordent pas assez de temps au déjeuner qu'ils prennent en général debout. 58% des infirmiers ont des insomnies, 66% des généralistes n'ont pas de médecin traitant, un comble. Et en termes de prévention non plus, ce n'est pas gagné. Prenons le sujet de la vaccination que commente le docteur Philippe de Normandie pour la MNH.
La vaccination, on a des surprises. On se rend compte que les médecins finalement sont des très bons élèves et d'autres catégories comme les sages-femmes, les infirmières ont un taux de vaccination qui est faible. Sur le problème de l'utilisation des somnifères, il y a beaucoup de professionnels qui ont des troubles de sommeil importants et qui sont amenés à prendre des somnifères. On voit bien que sur le sport, tout le monde n'a pas une activité sportive. Mais ce qui est important, c'est que il y a des liens dans tout ça. Il y a des catégories, par exemple les aides-soignantes et les infirmières notamment, qui ont des plus de difficultés avec leur santé, qui sont plus en souffrance au quotidien, qui se retrouvent à mal dormir, à prendre des somnifères. Donc oui, il y a un certain nombre de professionnels qui subissent. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'items autour du travail empêché. C'est-à-dire, je suis aide-soignante, je suis infirmière, je suis en train de m'occuper des soins, paf, le docteur peut venir m'interrompre. Et on pourrait multiplier les exemples.
Alors, on peut sourire de ce paradoxe, mais il renvoie aussi une image de professionnel sous pression, pression qui vient de la hiérarchie, de l'administration et aussi des patients.
Il y a surtout ce sujet de relation avec les patients, avec des patients qui souvent ne sont pas très reconnaissants et peuvent être durs, et en particulier pour les populations aides-soignants et infirmiers. Et puis il y a tout le sujet qui est le sujet effectivement de la charge de travail. En fait, quand on voit la situation de l'ensemble des professionnels de santé, on se dit qu'à un moment donné, il va falloir quand même que collectivement on s'intéresse à la santé des professionnels de santé. Et que finalement je fais un appel, patients, prenez soin de vos soignants. Qu'on se respecte. Il y a un sujet avec l'administration, qu'elle soit bien à l'écoute, à la fois de marcher sur le soin et l'économie et pas que sur l'économie. Parce que si demain on veut être bien soigné, il faut qu'on ait des soignants en forme.
Et voilà, vous avez entendu le message. Qu'on soigne un peu, nous aussi, tout corps confondu, qu'on soigne nos soignants.
Merci Daniel Messager. La chronique santé chaque mardi dans ce journal de 13h.
La météo avec les dindes fermières de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Elodie Calac, temps plutôt calme.
Sur le relief, une grande partie de Rhône-Alpes et le pourtour méditerranéen, c'est plein soleil. Le Mistral souffle jusqu'à 60 km à l'heure. Sur le sud-ouest, le soleil est parfois contrarié par des nuages d'altitude inoffensifs. Ailleurs, la grisaille se morcelle. Elle laisse la place à de belles éclaircies entre la Manche, la région parisienne, le centre et Poitou-Charentes. En revanche, ça reste plus encombré entre le nord-est et le lyonnais. Les thermomètres affichent seulement 5 degrés à Nancy, 6 à Lille et Nevers, 7 à Grenoble, 8 degrés à Paris, 10 à Brest, Agen, 14 à 7 et 16 à Bastia. Demain, une perturbation gagnera l'ouest avec de la pluie et de la neige sur le relief dans une ambiance encore rafraîchie.